Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans C'est haut de mon amour, l'émission qui empêche de polluer, de réchauffer et de penser en rond. Une émission qui n'a pas son permis de conduire un sous-marin, mais qui a son permis radio, donc vous êtes tout à fait tranquille. Avec aujourd'hui la technique Michel Thomas et Loïc Frapsoz, et assisté de Sophie Ledoré et de Jean-Christophe Pinaza, c'est Xavier Pestugia qui réalise cette émission. Et ça commence rituellement par une petite humeur avec beaucoup de sympathie pour nos cousins d'outre-mer qui multiplient les signaux de détresse depuis leur coin de paradis. La Guadeloupe, entre autres, décor de cartes postales, plage de rêve climatisée par le souffle des alizés et soleil couchant réglé comme des métronomes avec extinction des feux tous les soirs vers les 6 heures. Sauf que la plus belle plage du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Au cours actuel de la tonne de sable fin, eh ben c'est pas avec ça qu'on ira forcément très loin. D'autant plus que sous les tropiques, on le sait, la nature ne fait pas que dans les sentiments, quoi. Ouragans, tremblements de terre, éruptions de volcans qui vous dévastent les communes en quelques instants. Et pour régénérer les plantations de bananiers ravagées par les cyclones, devinez quoi, eh bien on assaisonne le tout au chlordécone, un pesticide qui vous stérilise les sols en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Alors comment est-on arrivé à cette version du paradis absurdement ratée dont s'accommodait tant bien que mal le poète martiniquais Aimé Césaire à qui on doit cette phrase ? Eh bien, reste parmi les suspects de la crise actuelle un passé colonial pas facile à gérer, à mi-chemin entre le paternalisme un peu gonflant des élites parisiennes et le syndrome loin des yeux, loin du cœur, le tout accompagné d'un climat politique local sous lequel les monopoles du genre station-service, grande distribution, produits d'importation fleurissent plus que de raison. Alors à l'heure de l'addition, c'est très simple, un coût de la vie qui est digne des îles Caïmans, anti-néerlandaises et autres paradis fiscaux de la région, vous savez, donc c'est ces refuges de la finance qui vous parasite l'économie, pire que le charançon, la banane. Pourtant, les petites Antilles, eh ben, on les envie parce que ce sont des bijoux de biodiversité avec leurs récifs coralliens, leurs mangroves, leurs forêts humides. Alors, vous avez les palétuviers, les flamboyants, les arbres à pin, les fromagers qui plantent leurs racines en bord de mer ou bien grimpent au flanc de la montagne pelée ou de la soufrière. Avec aussi, sur les étals des marchés de la Caraïbe, des fruits venus de tous les coins du monde et fort bien acclimatés à la douceur des Antilles. Vous avez les caramboles, les papayes, les pommes jardins, les bananes plantains, les mangues, que sais-je. Donc, une joyeuse cacophonie de formes, de couleurs qui, comme tout ce qui n'est pas affublé d'un code-barre sur cette petite terre, compte hélas pour du beurre au bilan du grand hypermarché de la World Economy. Verdict donc des spécialistes de la finance, désolé pour vous, chers amis d'outre-mer, démographique ou de la vie, chômage, etc. Nos mathématiciens ont passé en vue tous les paramètres. Le discriminant de votre équation est négatif. Oui, c'était une vraie phrase. Hein. Le discriminant de votre équation est négatif. Il n'y a que des solutions imaginaires. Eh bien, justement, si on en profitait pour dégainer notre imagination, pour sortir, comme on dit à Pointe-à-Pitre, de la société de profitation et cesser de boulotter jusqu'à plus fin cette nature qui nous est chère. Pour fabriquer ensemble la Guadeloupe, la Martinique, Guyane, en métropole, à La Réunion, peu importe, un petit coin de paradis où les joies de la vie ne se mesurent pas qu'à la taille des caddies. Alors au menu de cette émission, dans quelques instants, on va retrouver Jean-Marie Pelt avec son dernier ouvrage « La raison du plus faible ». On verra comment, dans la suite de cette évolution, les plus grands sont, oui, plus fragiles que les plus petits. Vous allez voir, il y a des métaphores qui sont tout à fait intéressantes. Et puis donc la suite, ce sera une émission marquée par le saut agricole. Je vous ai parlé du parc naturel régional du massif des Bauges, entre la Savoie et la Haute-Savoie. Tenez, écoutez, on y va déjà tout de suite.
Quand on était à l'école, on nous a appris, à l'école d'agriculture, donc, on nous a appris que finalement les fleurs c'était des mauvaises herbes. On nous disait au départ, il faut du trèfle, il faut de la luzerne, il faut des régras hybrides, il faut des prairies intensives. Et puis je m'aperçois qu'aujourd'hui on revient dans le juste équilibre. Finalement on n'a pas si faux que ça, quoi. Alors évidemment ça évite tous les traitements, désherbages, tous les... Le système a voulu qu'on revienne aux vraies valeurs et puis qu'on revienne... Finalement, c'est beau ces petites fleurs.
Et puis on va voir donc justement le rapport entre les producteurs de lait, l'herbe broutée par les vaches, l'apiculture et la biodiversité. Et ce petit monde-là cohabite très bien. Donc vraiment une initiative très intéressante dans ce massif des Bauges. Et puis, quelle France en 2030 ? Quelle France ? Alors ce sera quelle France agricole en 2030 avec Frédéric Danhé. Puisque nous poursuivons ce voyage, on avait posé un peu le décor général de la France la semaine dernière. Et bien là, on clique sur l'agriculture, évidemment, avec ce salon de l'agriculture. Donc Frédéric Denré pour terminer cette émission. Et on débute en musique, oui.
Mademoiselle, j'ai des secrets, des choses que je sais que je tais. Un vieux bubblegum qui colle soulier comme un homme. Mademoiselle, j'ai des regrets, des trucs pas très chics que j'ai fait. Une odeur de rhum. La peau comme un homme. Je crains d'en savoir un peu trop. L'amour aura ma peau. Je crains d'en savoir un peu trop. L'amour aura ma peau. Mademoiselle, j'ai des frissons. C'est Wesson qui colle à la tête comme un homme. Mademoiselle, j'ai mes raisons. Une foule de questions. Dean Winston qui colle aux lèvres comme un homme. Je crains d'en savoir un peu trop. L'amour aura ma peau. Je crains d'en savoir un peu trop. L'amour aura ma peau.
La Terre et nos auditeurs nous attendent. Jean-Marie Pelte, bonjour.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Alors je dis cela parce qu'on raconte avec vous, donc à travers cet ouvrage, la raison du plus faible, aussi cette histoire de la Terre. Et on sait que la vie a pareil à peu près 3 milliards et demi d'années, Jean-Marie. Pendant 2 milliards d'années, donc elle reste confinée dans les océans sous forme de bactéries, sous forme d'algues bleues, qu'on ne remerciera jamais assez parce qu'elles ont produit l'oxygène hein, quand même.
Oui.
Et puis, il y a 600 millions d'années, eh ben, il y a un miracle qui se produit. Là, ça va dans tous les sens, et les êtres unicellulaires deviennent pluricellulaires.
Voilà, c'est l'explosion. Et on a l'impression que la vie se met à inventer, à être extrêmement créatif, à faire des modèles extrêmement variés. Alors, on le voit dans les fossiles d'une carrière de Colombie-Britannique, la carrière de Burgess, où on a trouvé des quantités de fossiles, mais extraordinaires. Alors, ce sont des animaux extraordinaires, je pense à l'Opabania. Il a 5 yeux, il en a 4 qui sont montés au sommet des tentacules, et le 5e, il est sur la tête. Bon, je pense à la Lucigenia, c'est encore plus extraordinaire. D'abord, son nom évoque quelque chose d'hallucinant. Ouais. Alors, c'est une sorte d'animal qui ressemble à un chevalet, vous savez, qu'on utilise pour scier le bois.
Ouais.
Oui, il est monté sur pilotis, il a des tentacules au-dessus, les pilotis en dessous, on ne sait pas où est le devant et où est le derrière. D'ailleurs, on ne sait pas très bien non plus où est le dessus ou le dessous.
Et ces animaux n'ont pas de descendance.
Alors, ces animaux, souvent, n'ont pas de descendance. Il y a une grosse bête qui a 60 cm, c'était énorme pour l'époque, dans la mer, qui s'appelle l'Anomalocaris, qui est un dangereux carnivore et qui règne sur ce petit monde. Tout ça a disparu.
Oui.
Mais il y a un tout petit ver qui mesure 2 cm. Et dont on s'est aperçu, en regardant de près les fossiles, que ce n'était pas un ver. il avait quelque chose d'extraordinaire, une colonne vertébrale. Ah. Et il a survécu. Et c'est le premier être animal qui fait partie de notre groupe, c'est-à-dire du groupe des animaux qui ont une corde dans le dos qui petit à petit se transforme en colonne vertébrale comme chez nous. Et donc, que s'est-il passé? Les grands, les carnivores ont disparu et le petit Pikaia, tout petit, est passé la crise. Il a surmonté la crise. Et nous verrons que dans les grandes crises, ce sont toujours les tout petits qui passent.
Alors qu'est-ce qui se passe ensuite? Parce que justement, le triomphe des petits, c'est ce que vous mettez en avant donc, dans ce chapitre. Deuxième explosion.
Alors, il y a ensuite tout l'ère primaire. Voilà. Et l'ère primaire, alors c'est des grosses libellules qui ont un mètre d'envergure, c'est des mille-pattes qui ont 3 mètres, c'est des amphibiens, donc les ancêtres des grenouilles, qui sont énormes, c'est des araignées géantes, c'est aussi le monde des fougères. Et puis arrive une crise effroyable, la plus grave de l'histoire de la vie, qui est la crise de la fin de l'ère primaire. On arrête l'ère primaire quand cette crise arrive, et 95% des êtres vivants disparaissent, surtout dans les océans. Alors, toujours la même question, qu'est-ce qui passe? Eh bien, il passe des petits amphibiens miniaturisés. Tout petits, tous les gros sont éliminés. Il passe une plante, alors ça c'est assez étonnant, qui est un conifère herbacé. C'est le seul conifère herbacé qui passe. Il passe une toute petite bestiole qui est le collembole, qui n'a pas évolué depuis 400 millions d'années.
Et qu'on retrouve bien sûr dans nos terres.
Hein. Absolument.
Dans les sous-sols.
C'est un intégriste. Ouais. Il est toujours pareil. Il bouge pas. Il passe le thériops, qui est un tout petit crustacé. Donc c'est de nouveau la même chose. Ce sont les tout petits qui passent. Alors, il y a un grand qui passe. C'est un animal qui est presque gros comme une vache, mais qui est victime d'un effroyable carnivore qui s'appelle le dinogorgon, qui lui saute sur la peau et qui le suce et qui le tue. Qu'est-ce qui se passe? Le carnivore disparaît et l'autre reste aussi. Donc, on voit que les carnivores sont ceux qui partent les premiers, donc les forts, hein, c'est les forts, que les petits se maintiennent et traversent la crise, et que chaque fois, c'est donc les petits qui réussissent à résister et les gros qui sont éliminés.
Ces crises dont vous nous parlez, Jean-Marie, c'est en général dû à des excès climatiques, donc c'est des refroidissements climatiques dus à l'émission massive de cendres qui sont liés à un volcanisme, on pense à la Sibérie ou bien d'autres coins.
Oui, c'est des phénomènes volcaniques, c'est des phénomènes de réchauffement climatique. Quand il y a un phénomène volcanique, il y a un refroidissement parce qu'il y a de la poussière qui se fait. Mais après, la poussière tombe et comme le volcan a dégagé beaucoup de gaz carbonique...
Là, il y a réchauffement.
Oui, il y a réchauffement. Et puis, c'est des astéroïdes. Alors, c'est ce qui s'est passé pour la troisième grande crise. Cette fois-ci, c'est la fin de l'ère secondaire, 65 millions d'années. Les dinosaures sont toujours là et ils ne sont plus en pleine forme. Ils sont déjà sur le déclin. Il tombe, semble-t-il, une astéroïde. On n'en est pas tout à fait sûr, mais c'est, disons, très probable. Du coup, il y a le refroidissement parce qu'il y a énormément de poussière en l'air. Les plantes ne peuvent plus faire la photosynthèse. On voit plus le soleil. Donc, les dinosaures meurent de faim quand ils sont herbivores et meurent de froid parce qu'ils ont du sang froid et ils ne savent pas réguler leur température. Donc, le Tyrannosaurus rex, qui a fait la fortune de Jurassic Park, éliminé. Oui. Les gros dinosaures éliminés. Mais il y avait déjà à cette époque...
Des mammifères. Des petits.
Et depuis longtemps. Ils étaient tout petits. Mais ils avaient inventé un système de thermorégulation parce qu'ils sont comme nous. Ils sont à une température supérieure à la température extérieure. Et surtout, comme ils sont tout petits, ils ont pu se planquer. Et ils se sont cachés. Et quand les dinosaures avaient disparu, les petits mammifères ont trouvé le terrain dégagé. Et alors, ils se sont développés. Aucun animal de plus de 20 kilos n'a traversé la crise. Donc, quand on pense aux diplodocus qui ont pesé 80 tonnes, évidemment, ils n'ont aucune chance de passer la crise. Et ces petits animaux, dont la plupart étaient gros comme des souris, ils ont traversé la crise. Aussitôt les dinosaures disparus, ils se sont multipliés à une vitesse formidable. Ils ont inventé tous les prototypes actuels de vertébrés, qui sont les animaux que nous connaissons, que nous connaissons aujourd'hui, et ils ont refait la même démonstration que c'est dans les crises les petits qui passent. Maintenant la société.
Ah, allons-y.
Ben, elle fait exactement le contraire.
Parce que nous sommes quand même dans la sixième extinction des espèces.
Tout hein. À fait. Voilà. Alors, nous faisons exactement le contraire. Nous construisons des tours toujours plus hautes, favorables donc à un gigantisme extraordinaire. Mm-hmm. Maintenant, on va faire des tours d'un kilomètre de haut. Oui. Ceux qui habitent dans les tours deviennent de plus en plus longs, puisque nous avons gagné 7 cm en deux décennies chez les jeunes, un peu moins chez les filles, un peu plus chez les garçons. Donc nous devenons de plus en plus grands, si bien qu'aujourd'hui, un préfet n'aurait plus les soucis qu'il avait quand venait le général de Gaulle pour lui trouver un lit. Les lits sont plus longs aujourd'hui. Et les sépultures que nous avons récoltées chez nous dans notre institut, qui est un monastère, les sépultures, elles ont 1m60. Les cercueils en pierre, on ne pourrait plus y mettre les gens d'aujourd'hui dedans. Donc on a pris de la taille.
Et en ce qui concerne les entreprises et multinationales, qu'est-ce que ça devient là ?
Ben, toujours plus grosses, naturellement. Jusqu'au début de la crise, tous les jours dans les journaux, on disait que telle multinationale avait fusionné avec telle multinationale pour acquérir, disons, la dimension mondiale, comme on dit, rappelez-vous, par des OPA amicales ou inamicales, toujours plus gros. C'était la règle.
Donc gigantisme généralisé.
Les centrales nucléaires, toujours plus grosses. L'EPR qu'on construit en Finlande, il est tellement gros que maintenant il coûte 50% de plus que le devis de départ et il va se mettre en route 2 ans et demi plus tard que c'était prévu parce que c'est tellement gros et c'est tellement compliqué qu'on est empêtré dedans.
Alors on va vous dire que c'est la première génération aussi, c'est pour ça.
C'est ça, tête de série. Ça ira mieux après. Donc, je vois votre optimisme qui me réjouit. Donc, nos sociétés vont exactement à l'inverse des lois de la nature. Et quand crise il y a, puisque maintenant crise il y a, que voyons-nous ? Eh bien, c'est toutes les grosses banques qui se cassent la figure, c'est quand même ça. C'est l'énorme industrie automobile qui se casse la figure, c'est quand même ça. Les petits artisans continuent à faire leur boulot. Moi, je pense surtout à ces innombrables associations écolos qui, sur le terrain, font des choses admirables. Oui. Et eux ne seront pas emportés par la crise. Parce que, tout à fait au début de l'ère de l'écologie, un Anglais, Schumacher, avait écrit un livre qui a fait grand bruit. Il appelait « Small is beautiful », ce qui est petit est bien. Je crois que ça reste vrai, qu'il faut que nous sortions de cette marotte du gigantisme et que nous nous rappelions cette leçon de la nature, que quand les crises sont là, c'est les petits qui passent. Qui est le fort, qui est le faible ? Puisque c'est ça le thème du livre.
C'est ça. Alors Jean-Marie, donc une fois de plus, la nécessité absolue de changer les priorités. C'est ça qui est derrière.
Mais oui, bien sûr. Il faut changer toutes les priorités.
Merci à vous Jean-Marie Pelt. Et puis on vous retrouve donc la semaine prochaine. C'était donc la raison du plus faible, le triomphe des petits. Au revoir Jean-Marie.
Au revoir Denis. Au revoir à tous.
But instead, all the calcified arithmetists were doing the math. And it would take a calculated blow to the head to light the eyes of all the homeless sociopaths. Oh, on and on, we are the homeless sociopaths. Oh, on and on with all the homeless sociopaths. Calcium mines are buried deep in your chest. So calcium mines you buried deep in your chest. Ooh, you're deep in our minds.
Oui, c'est dommage parce que c'était quand même une très très jolie ballade qui est signée Andrew Bird, qui s'appelle Oh No. Et Andrew Bird, donc le fameux oiseau, il a un tout petit peu déraillé. Ça arrive, vous savez, de temps en temps. Moi, j'étais installé là, tout à fait tranquillement. Mais on va quand même poursuivre notre voyage, hein, bah oui, puisqu'on va aller dans le département de la Savoie et de la Haute-Savoie, dans ce parc naturel régional du massif des Bauges.
Alors, nous sommes dans la commune de Gruffy, qui est une commune du Piémont du parc naturel des Bauges. Ouais. On est à peu près à 700 mètres d'altitude.
On a le Semnose, qui est quand même un réservoir d'eau, et Dieu sait s'il crache hein, lorsqu'il y a beaucoup d'eau. Hein.
Le Semnose, c'est les alpages, et puis ici, on est dans le Piémont, on est sur les prairies du bas.
Qu'est-ce que vous ramassez, Philippe Mestelan, là ?
Alors là, c'est une brunelle. C'est une plante avec beaucoup de goût. En fait, c'est une plante aromatique. Donc, ça fait partie des plantes indicatrices de la qualité des prairies du parc.
Ouais. Et après, ça fait du bon lait, ça aussi.
Ça fait du bon lait. Ça se ramasse aussi pour manger des salades printanières ou même automnales.
Reportage balade qui était tourné à la fin de l'été dernier entre Delaxe, celui d'Annecy, celui du Bourget. On est dans ce très beau parc naturel régional du massif des Bauges. Vous imaginez des forêts, des alpages, des massifs ensoleillés, de belles vallées, alors à la fois de la montagne douce où vous avez des vignes au pied et puis des chamois qui sont au sommet. Et c'est un véritable petit territoire donc de polyculture, hein, je vous l'ai dit, vergers, vignes, vaches, plantes médicinales, herbes. Et là, on va rencontrer donc, des gens qui travaillent sur cette biodiversité avec les différents acteurs. D'abord, effectivement, heureusement qu'il y a ces agriculteurs qui sont là. Ils sont absolument indispensables à l'équilibre humain, l'équilibre paysager, environnemental. Et donc, on va voir quel est le lien entre donc, ces producteurs de lait, entre l'herbe, l'apiculture et la biodiversité. Alors, l'homme que vous avez entendu s'appelle Jean-François Domange. Il est éleveur à Gruffy. Vous allez voir, c'est le pied du Semnose. On va rencontrer aussi un apiculteur qui s'appelle Pierre Marigot. Et puis, on va commencer donc cette balade avec Philippe Mestelan, qui est technicien au parc donc du massif des Bauges. Allez, on y va. Prairie fleurie, respirez. On se prend un avant-goût de printemps, un avant-goût d'été. Vous êtes prêts ? C'est parti.
Une prairie fleurie, c'est quelque chose qu'on a inventé, nous, au parc, avec les agriculteurs. On a dit, une prairie fleurie, c'est une prairie qui a au moins 4 plantes indicatrices de qualité qu'on a fixées. On en a 24 en tout. Et donc, toutes les prairies fleuries, pour nous, c'est des prairies qui ont ces 4 plantes réparties de façon homogène sur la prairie.
Ce sont lesquelles ?
On a des plantes qui sont spécifiques au milieu sec. La sauge, le sainfoin, vous allez voir, la geste, le lotier. Dans les prairies avec des sols plus gras, on va avoir des plantes comme la marguerite, le salsifis des prés, les cnossies, les centaurées, des choses comme ça. Donc chaque prairie, j'allais dire, aura ces types de fleurs. On n'aura jamais les 24 plantes en même temps, mais on va retrouver dans tous les cas des prairies avec beaucoup d'espèces de plantes.
Quelle différence y a-t-il entre une prairie, on va dire, traditionnelle, avec du raie gras, et puis effectivement ces prairies fleuries ?
Alors, ça n'a strictement rien à voir. Une prairie, aujourd'hui, il faut considérer qu'il y a deux grands types de prairies. On va dire une culture d'herbe, c'est-à-dire qu'on sème 2-3 espèces, parfois 10, essentiellement des graminées. Donc, c'est plus proche d'un champ de maïs ou d'un champ de blé que d'une prairie naturelle, donc deuxième catégorie. On l'appelle aussi prairie permanente, qui sont en fait des milieux naturels, des milieux semi-naturels, parce que bien sûr, sans l'activité agricole, elles n'existeraient pas, elles deviendraient des forêts. Mais c'est bien de ces prairies permanentes dans lesquelles on retrouve la biodiversité.
Ce qui est très intéressant, puisque là on parle de biodiversité, c'est l'intérêt de tout le monde. Lorsque l'on est d'un côté éleveur, lorsque l'on fait du lait et que l'on est aussi apiculteur, d'avoir une biodiversité, comme on dit, en bon état. Qu'est-ce que l'on vous a demandé, vous, Jean-François Domange, puisque donc vous jouez le jeu de ces prairies fleuries, quel est votre intérêt ? Racontez-nous.
L'intérêt, il est tout simplement pour la biodiversité. On est une exploitation uniquement basée sur l'herbe l'été et le fourrage sec l'hiver. L'herbe, le foin, c'est la ration principale pour nos bêtes, donc abondance, Montbéliard. On fait peut-être un peu plus attention aujourd'hui. S'il y a une prairie qui permet un foin plus riche, on va travailler nos prairies intensives sur le bas de l'exploitation. Mmh. Et puis on va faire du foin plus riche, plus varié sur les parcelles lointaines.
Pierre Barigaud, vous élevez des bêtes quand même qui sont aussi extrêmement fragiles, parce qu'on sait très bien que les abeilles, qui sont des véritables sentinelles, on le sait de la biodiversité aujourd'hui, ne sont pas toutes exactement en pleine forme. Et vous avez évidemment joué le jeu, c'était tout à fait votre intérêt. Donc, prairie fleurie, qu'est-ce que ça évoque pour vous et quels sont les bienfaits d'une prairie fleurie ?
Ah ben pour moi, ce que ça évoque, tout de suite, la prairie fleurie, c'est un feu d'artifice, quoi. Il y a des couleurs partout, on a des abeilles qui butinent. On le voit assez rapidement, finalement, quand on voit, on pose nos abeilles sur une prairie avec une grande diversité. On voit que devant la ruche, ça s'active, ça travaille, ça rend du pollen, ça rend du nectar. Et tout de suite, on a ces effluves assez fortes de ces nectars. On le sent très rapidement, quoi.
Vous avez fait le jeu avec les agriculteurs, comment vous faites là ?
On a discuté avec les agriculteurs et on est arrivé finalement maintenant à mettre en place quasiment des contrats entre agriculteurs et apiculteurs pour placer des ruches dans des endroits précis, quoi, finalement. Mais nous, c'était important aussi de signifier que dans ces prairies biodiverses, il n'y avait pas qu'une qualité gustative pour du fromage, on peut aussi faire des miels de qualité, on pouvait faire aussi du paysage, on pouvait faire de la biodiversité en général.
Alors Pierre, de quoi elles se régalent vos abeilles ici ?
Ah, elles affectionnent particulièrement deux types de prairies en fait, parce que les prairies dans les Bauges, elles sont assez diversifiées.
Ouais.
On pourrait distinguer celle du Piémont, sur lequel on va retrouver des plantes plutôt de milieu sec, du sainfoin, du lotier, de la pnossie, ces choses-là. Et puis en altitude, un peu plus haut sur Ayon, ou dans les alpages, elles vont trouver plutôt... de la centaurée, du géranium, enfin une diversité de fleurs qui fait que les miels sont d'ailleurs complètement différents entre le Piémont et puis le sommet des alpages.
Ouais. On vit quand même dans une entité, c'est-à-dire que chacun ne peut pas vivre simplement gérer sur sa petite parcelle et il faut que ce soit transversal. Quand on parle de développement durable, c'est aussi un exemple local ici.
Conduire un troupeau aujourd'hui, l'obligation de faire du pâturage, hein, ils ont obligatoirement au moins 120 jours de pâturage à mettre en place. C'est une compétence, conduire les animaux dans les pentes, entretenir tous ces paysages, c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération et qui risque à terme de disparaître si on installe des robots de traite, des systèmes de complémentation animale et qu'on oublie l'herbe et sa valeur.
Je connaissais quelqu'un de Gruffy, un ancien exploitant, qui disait « Regardez brouter les vaches ». C'est important, parce que quand il voyait les jeunes qui partaient couper du maïs avec l'ensileuse et puis qu'il leur rapportait, il disait « Non, non, laissez brouter vos vaches ». En plus, il était tout à fait logique, parce qu'il disait « Elles ont la faucheuse devant et la tonalisée derrière ». Le travail se fait tout seul.
Mais oui, c'était effectivement, ça rentre d'un côté, et puis donc ça vous coupe, effectivement, et puis derrière, eh bien, il y a ce qu'il faut pour enrichir une prairie et laisser faire sans être obligé de passer donc, par les toilettes. Donc c'est quand même assez formidable. Jean-François, qu'est-ce que vous regardez là actuellement ? C'est quoi comme plante encore ?
C'est une brunelle.
C'est une petite brunelle, d'accord. Alors ça veut dire que la qualité de l'herbe, on le sait, fait aussi la qualité du lait. Qu'est-ce qui caractérise le lait des Bauges ici ?
Ben justement, c'est le tout herbe, quoi. C'est la vache qui a pâturé 120 jours, c'est théorique, c'est par rapport à la OC, mais une vache, il faut qu'elle mange un maximum d'herbe. On la régule de temps en temps avec un peu de foin, parce que c'est vrai qu'il arrive que l'herbe est très tendre, donc elles ont besoin d'une régulation au niveau du rumen. Donc on leur donne un petit peu de foin à l'intérieur des étables, mais on essaie de limiter au plus possible. Théoriquement, elle passe du, on va dire, 8 avril au début novembre.
Dehors.
Dehors, à la pâture. Voilà.
Puis elles sont bien.
Jour et nuit, si, tant qu'il est possible.
Oui, sans pull à vert, quoi. Donc elles vont bien. D'accord, impeccable. D'ailleurs là, on a face à nous l'entrée des Bauges. C'est vrai que c'est très beau. Il y a aussi du pommier par là.
Les pommiers sont un vrai marqueur de paysage et d'histoire rurale très riche ici. En général, un pommier, ou en tout cas une rangée de pommiers, c'est une limite de parcelle.
Oui.
Hein, ça correspond souvent à du parcellaire. Il y a eu beaucoup de vergers, de pré-vergers ici d'implantés et on en voit encore un certain nombre. Le pré-verger, c'est une densité d'arbres pas trop importante qui permet à la fois d'avoir une utilisation agricole de pâturage ou de fauche et une production de pommes assez importante grâce aux vergers hautes tiges.
On est dans cette césure où on va refaire avec la nature. Quand on voit d'ailleurs les abeilles et les vaches ici dans ce pré, ça se passe très bien.
Ah oui, non, mais complètement. Il faut retrouver finalement ce travail qu'avaient nos anciens, de travailler avec la nature. Bon, il y a eu des périodes où effectivement c'était houle tout intensif, il fallait tout faucher à une certaine période et on se rendait compte finalement que la qualité des fourrages n'était pas terrible. Et puis même la qualité des laits, on avait des laits qui soit ne pouvaient pas se transformer en fromage ou alors qui étaient des laits standards finalement.
Quand on était à l'école, on nous a appris, à l'école d'agriculture, donc, on nous a appris que finalement les fleurs, c'était des mauvaises herbes. On nous disait au départ, il faut du trèfle, il faut de la luzerne, il faut des régras hybrides, il faut des prairies intensives. Et puis je m'aperçois qu'aujourd'hui, on revient dans le juste équilibre. Finalement, on n'a pas si faux que ça, quoi. Alors, évidemment, ça évite tous les traitements désherbages. Le système a voulu qu'on revienne aux vraies valeurs et puis qu'on revienne. Finalement, c'est beau ces petites fleurs.
Pierre Marigot, ici, c'est vraiment gérer votre coin d'adoption, mais vous l'avez vraiment, vraiment choisi. Qu'est-ce qui vous plaît dans les Bauges ?
Ben, on dit toujours un petit peu que les Beaujus sont les gens qui sont fermés, mais en fait, dès qu'on les connaît, c'est des gens qui sont hyper généreux, et très très accueillants. Et moi, j'apprécie surtout les hommes, parce que c'est d'abord les hommes qui font les paysages. Et j'adore ce contact avec les hommes et les agriculteurs en particulier. Et puis quand on voit ces montagnes avec les ciels bleus, et puis juste au printemps, quand il y a encore un petit peu de neige sur les sommets, c'est extraordinaire, quoi.
Bravo pour ce travail. Et on va laisser nos petites abeilles butiner. Mais écoutez, à très bientôt.
À très bientôt, Denis. Merci.
Voilà, j'espère que vous avez bien respiré donc dans ce massif des Bauges avec ce bel exemple vraiment d'agriculture de montagne, avec des gens donc qui se sont parlé sans difficulté d'ailleurs, je veux dire entre agriculteurs, apiculteurs, les gens du parc et tout le monde s'y retrouve avec ce système de prairies fleuries. Donc ce sont des gens qui sont déjà en avance, et qui ont compris déjà beaucoup de choses. Et en plus, ça ne casse pas leur rentabilité. Enfin, donc je dirais tout va bien. La semaine prochaine, d'ailleurs, je recevrai aussi le réalisateur d'un film qui s'appelle Herbe. On continuera un petit peu dans une série agricole. Et puis, je voulais vous faire part aussi d'un excellent documentaire qui va passer ce soir sur Arte à 23h15, qui s'appelle La pépinière du désert, qui est un peu dans le mouvement de ce que l'on vient d'entendre, parce que là, ce sont aussi des gens d'espoir et qui font des choses. C'est un projet écologique qui jette un pont entre une région pauvre du Maroc et donc la banlieue parisienne. Et c'est l'histoire donc de deux Marocains qui tentent un pari qui est assez fou, créer une pépinière en plein désert.
C'était le mois d'août 2004. Je me suis rendu à la région de Mengou, qui est à 50 km de mon village. Et là, j'ai trouvé vraiment des paysans vraiment désespérés, mais qui sont attachés à cette terre, malgré que les criquets leur ont fait tout leur luzerne et leurs arbres. Moi, je ne veux pas que ces gens-là soient des assistés, qu'on soit bien d'accord. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de tous les jours, on leur envoie un morceau de pain. Moi, à mon avis, il faut leur envoyer des pelles et des pioches pour combattre ce désert et le sable qui avance. La première chose à faire, c'est d'essayer de planter déjà des arbres. Mais après, les distribuer aux paysans, je sais pas, au prix coûtant, et d'essayer de reboiser un peu, pas uniquement les arbres fruitiers, c'est de reboiser un peu la région. Et tout ça, on espère que c'est la pépinière qui va permettre d'avoir des arbres sur place. Et cette pépinière va vraiment pas uniquement pousser les arbres, mais il va pousser de l'espoir, il va pousser, je crois, beaucoup de choses avec...
Voilà donc un documentaire qui est signé Laurent Chevalier, donc La pépinière du désert, ce soir 23h15 sur Arte. Et sans avoir l'air vraiment d'y toucher, ça aborde les grandes interrogations de notre époque. Donc il y a tout, il y a bien sûr la question de l'écologie, du dérèglement climatique, mais là ça va plus loin encore, c'est-à-dire qu'on va parler de la démocratie au Maroc, de la mondialisation, de l'identité. Non, vraiment c'est très très bien fait. Nous allons continuer notre balade dans le domaine de l'agriculture, évidemment, en salon, avec Frédéric Denré dans quelques instants, avec son ouvrage « Quelle France ?» en 2030, donc un garçon qui tente la prospective. Ce qui n'est pas toujours évident, mais oui, mais ça fonctionne bien. Tenez, un garçon qui, je pense, a très bien connu les plantes médicinales. Bob Marley.
On tousse, on n'arrive pas à respirer, on étouffe. Alors CO2, mon amour, c'est le magazine Nature et Environnement qui nous aide à respirer. Avec Denis Chessou.
Waouh !
Alain Souchon.
Of my
Voilà, Bob Marley, chanteur écologiste sûrement. Et donc, toujours en direct dans C'est au-delà de mon amour sur France Inter. J'espère que vous allez bien. Vous prenez votre temps pour rentrer. Et dans notre grande série Labourage et pâturage et dans la suite de nos prairies fleuries hein, dans les Bauges, on va retrouver en seconde semaine Frédéric Danhé avec une série donc prospective. Son ouvrage chez Armand Collin s'appelle Quelle France en 2030. Et donc, on va cliquer sur la case agriculture. Alors, Frédéric Danhé, d'où partons-nous? Petit rappel et vers quoi donc irons-nous en 2030?
On part d'une agriculture, l'agriculture actuelle, qui a quitté le sol. On a demandé à l'agriculture au lendemain de la guerre de permettre d'en terminer avec les files d'attente à la boucherie et à l'épicerie. Puis on lui a demandé aussi un peu dans cet idéal gaulien d'en terminer avec cet attachement à la terre. La terre ne ment pas de Pétain. On a accusé les agriculteurs d'avoir beaucoup soutenu Pétain. Voilà, tout ça fait partie d'un mouvement général de défiance vis-à-vis du monde agricole qui était sommé de s'intégrer dans la flèche du progrès gaulien. Donc il lui fallait non seulement se moderniser, mais en plus, et les agriculteurs, c'est pour cela qu'ils ont adhéré en majorité à ce principe, ils ont voulu se sortir de la pauvreté crasse du monde paysan d'avant-guerre. Et donc on a fait quoi? On a formé les agriculteurs, notamment grâce aux jeunesses agricoles chrétiennes.
Les Jacques,
qui ont été cofondatrices de la FNSE ensuite. On a donné des cours d'agronomie aux paysans. On a surtout réformé les droits du fermage qui ont permis enfin aux agriculteurs qui, pour la très grande majorité, n'étaient pas propriétaires de leurs terres.
Parce que ça venait de l'ancien régime en plus.
Voilà, la révolution n'avait rien changé. Ah, les propriétaires des terres étaient les seuls à pouvoir décider que faire sur leurs terres, ouais. Alors que ce n'était pas eux qui travaillaient sur leurs terres. Donc c'était une réforme fondamentale en 1946. Puis l'apparition des prairies temporaires, c'est-à-dire l'arrivée des légumineuses qui enrichissent le sol en azote. Enfin voilà, tout ça fait que juste avant l'élaboration de la PAC, de la politique agricole commune en 1957, au traité de Rome, la France avait à peu près recouvré son indépendance alimentaire, en tout cas pour l'alimentation dite stratégique, hein, les produits laitiers par exemple et les céréales. Et ensuite...
partir des années 70-75, productivité à fond.
Oui, mais ça a démarré dans la PAC. L'idée de la PAC, c'était de permettre à toute l'Europe d'être indépendant alimentairement pour les produits stratégiques et surtout de les transformer en produits d'exportation. Et à partir de là, si on veut que l'agriculture devienne un produit d'exportation, alors qu'avant elle était à peu près autosuffisante, ben, c'est pas compliqué. Il faut subventionner les exportations, il faut freiner les importations, il faut garantir un prix d'achat supérieur à celui du marché aux agriculteurs qui produisent mal, qui produisent pas bien. Voilà, ce qui compte, c'est de produire et de permettre aux agriculteurs de toucher toujours de l'argent, toujours plus d'une année à l'autre, quel que soit leur mode de production.
Alors on a spécialisé les régions, bien sûr.
Il faut rentabiliser l'outil de production, donc il faut des fermes de plus en plus grandes qui ne font plus qu'une seule chose. Donc on abolit la polyculture élevage. Les gens qui faisaient la polyculture élevage, bon, on fait de la monoculture, on fait de l'élevage. L'élevage a quitté le sol, a quitté la prairie pour arriver en stabulation dans des hangars déments. Et puis quand on veut faire de la monoculture, bah, c'est pas difficile. Il faut rectifier les paysages. Il y a une économie de bassin à trouver pour produire beaucoup. Eh ben, il faut couper les haies, il faut araser les sommets des collines et voilà, il faut faire passer la moissonneuse. Donc on a simplifié les paysages. On a rendu les régions, on a fait de la monoproduction par région. Hein, typiquement, le Nord, chez moi, c'est de la céréale et du colza et de la betterave.
La Bretagne, c'est les porcs, les poulets.
Voilà, et le Massif central, c'est
l'élevage.
C'est de l'élevage. Ouais. Et en plus de tout cela, donc on simplifie. On spécialise les régions avec moins d'agriculteurs. Donc, il faut utiliser beaucoup de machines. Donc, tu consommes beaucoup de pétrole. Mais bien évidemment, il faut aussi se séparer de la nature, des aléas naturels. Donc, il faut emballer toute l'agriculture dans une serre virtuelle qui est celle des produits chimiques. C'est-à-dire pour produire, c'est-à-dire avoir une production, une croissance chaque année, malgré les tempêtes, malgré les coups de chaud, malgré les coups de froid, malgré les attaques parasitaires. Et ben, il faut gaver le sol de pesticides et d'engrais. Donc, il faut transformer le sol en juste un support de culture et le remplacer, le recouvrir donc d'une surface artificielle qui permet aux plantes de pousser presque comme si elles étaient sous serre.
Derrière tout ça, quand on parle évidemment d'indépendance, c'est à la fois vrai et en même temps faux. C'est faux parce qu'il y a quand même le leurre. N'oublions pas que les engrais, les pesticides sont quand même des dérivés du pétrole.
Pétrole et du gaz, oui.
Et puis le fameux tourteau de soja, OGM, pour nourrir les bêtes, il ne vient pas de chez nous.
Eh bien non, il vient notamment beaucoup du Brésil. Et pour faire du soja, c'est pas compliqué, il faut couper la forêt.
Oui.
Et le tourteau de soja donc, nourrit nos bêtes, il nourrit aussi nos saumons. Oui. Vous savez, le saumon d'élevage, c'est aussi du tourteau de soja. Et le tourteau de soja, son cours est indexé sur celui de l'huile de palme, laquelle l'huile de palme, pour sa production, nécessite de transformer la forêt indonésienne en pépinière à EVA. Voilà, tout est lié. Donc c'est une agriculture qui était non seulement destructrice pour nos paysages en France, mais aussi destructrice pour les paysages dans les pays du Sud. Destructrice, évidemment, pour l'agriculture des pays du Sud, parce qu'on lui a aussi obligé à produire pour nous, pour l'agroalimentaire, des productions qu'elle ne faisait pas avant. Et puis destructrice simplement pour une chose qui est fondamentale dans l'esprit français, c'est la paysannerie. Oui. Il n'y a plus de paysans.
Non, il y a des gens qui travaillent soit pour effectivement des agro-industriels ou bien aussi des grandes surfaces. C'est quand même la,
c'est, ah bah, c'est de toute façon, ce sont les grandes surfaces, c'est la grande distribution qui achète l'essentiel de la production et qui vend l'essentiel de la production.
Et les producteurs en plus ne s'y retrouvent pas.
Personne ne s'y retrouve. Le prix des achetés aux paysans a baissé, a été divisé par deux en 30 ans, mais a augmenté de 50% en 30 ans aux consommateurs. Donc il y a quand même un hiatus entre les deux, c'est la grande distribution.
Alors Frédéric, les scénarios maintenant effectivement pour 2030, qu'est-ce que ça pourrait être ?
Alors les scénarios, il y a deux scénarios opposés. Il y a un scénario où on laisse faire, c'est-à-dire que malgré les obligations nouvelles pour l'agriculture qui sont d'éviter de polluer, de moins rectifier les paysages, de s'occuper un peu mieux des bêtes, ces scénarios a priori sont favorables à l'agriculture tout bio, sauf que l'industrie, celle qui a les moyens, l'industrie agroalimentaire, a les moyens de corriger ses travers en enfermant encore plus l'agriculture productiviste dans une serre encore plus épaisse. Ce qu'on fait sous serre, 90% des légumes, à peu près 80% sont produits sous serre. Ce sont des serres, en tout cas pour les plus modernes, qui utilisent peu d'énergie, qui émettent peu de déchets. Voilà, il y a une utilisation efficiente des intrants, comme on dit en agriculture, et des extrants. Certains groupes industriels envisagent de faire la même chose. C'est ce qu'on appelle l'agriculture raisonnée, qui n'est jamais qu'une agriculture qui respecte les réglementations appliquées depuis 30 ans. Voilà. Bon. Donc l'agriculture productiviste, malgré les coûts de plus en plus importants liés à sa production, parce qu'elle utilise beaucoup de pétrole, parce qu'elle utilise beaucoup de pesticides et parce qu'elle sera taxée de plus en plus pour ses effets sur le paysage et la nature, malgré cela, les industriels sont tout à fait capables d'étendre encore plus la Beauce, les prairies de Flandre, les élevages industriels, pour atteindre une économie de bassin qui leur permettrait d'investir suffisamment dans une technologie suffisamment efficiente pour qu'elle utilise moins d'énergie, mette moins de carbone, etc.
Mais alors, ce que vous dites, Frédéric, c'est que l'industrie de la grande distribution, donc on va dire garante de la traçabilité, parce que ces choses-là coûtent cher.
Et oui.
Donc, parce qu'à la fois, nous, on veut évidemment une sécurité alimentaire, mais ça a évidemment un prix. Donc, ils fixeront les prix non sur la qualité et la quantité, on va dire, de blé ou de viande, mais sur des indicateurs moléculaires et génétiques.
Ben ça, c'est l'évolution. C'est ce qu'on lit dans les rapports, les documents, les livres, les conférences sur l'agroalimentaire. C'est ça, c'est l'agroalimentaire pour économiser encore plus, si vous voulez, être de plus en plus rentable, n'a plus besoin d'avoir du maïs. Elle veut ce qu'il y a dans le maïs, elle veut du saccharose. Vous voyez ? Pour être efficiente, de plus en plus efficiente, cette agriculture devant répondre à un cahier des charges de plus en plus lourd, demandera aux agriculteurs qui ne seront plus que salariés des molécules. Ou par exemple, non plus une charolaise, mais un bœuf, une viande, quelle qu'elle soit, juteuse. Et ça, la génétique, la nutrigénomique, tous ces termes un peu barbares, permettront, c'est déjà testé, de vendre entre guillemets un taureau, une race à viande, non pas en fonction de sa race, donc de son terroir, mais de la viande qu'elle procurera au consommateur. Une viande juteuse, semi-juteuse, tendre, semi-tendre, etc. L'industrie, c'est ça. Donc l'autre évolution, effectivement, il y a le productivisme à tout craint, avec une intégration verticale du monde agricole dans l'agroalimentaire, par l'agroalimentaire et la grande distribution. Et l'autre évolution, c'est pas forcément le tout bio, c'est ce que Marc Dufumier, grand agronome, appelle l'agroécologie. C'est simplement une agriculture qui retourne au sol et qui ne fait qu'utiliser le potentiel naturel pour produire à peu près ce qu'on produit maintenant, mais sans avoir à utiliser d'artifices. Donc on retourne au sol. Et toutes les études montrent, donc on appelle ça bio-agroécologie, haute performance environnementale, toutes les études montrent qu'avec ce type d'agriculture qui refait un peu ce qu'on faisait avant, mais avec les connaissances actuelles, est capable de nourrir largement 9 milliards d'hommes en 2050.
Oui. Donc susurrer, comme vous dites joliment, ce que doit faire le sol, en utilisant bien sûr plus de technologies, mais en accompagnant les propres capacités de la nature.
Exactement, c'est tout à fait ça. Et ça aurait un autre avantage. Non seulement c'est une agriculture qui, de facto, revient à la polyculture élevage, qui recrée des paysages parce que c'est une agriculture où on redécouvre l'interdépendance des de la culture et de l'élevage, l'interdépendance des différentes cultures entre elles. Une prairie, c'est plein de biodiversité, donc c'est un refuge pour les insectes qui vont bouffer les parasites du champ de blé à côté. Voilà. Mais en plus, ça recrée du lien social, parce que c'est une agriculture qui a besoin de plus de bras.
Et puis vous rappelez aussi que le climat donc modifié amplifiera l'étendue de nos erreurs présentes et passées. Donc là aussi, il va falloir être bon, quoi. Il va falloir faire de nouveau avec le sol et avec la nature, quoi.
Ben, on est de toute façon obligé d'en revenir à une agriculture de terroir où on cultive des variétés, des plantes ou des races domestiques adaptées à un climat, à une terre, à une ressource en eau particulière. Le grand problème de l'agriculture d'aujourd'hui, c'est qu'après...
Du nord au sud, on veut avoir la même plante qui
sort. On a adapté les terroirs à quelques variétés, quelques races. On les a adaptées par des engins lourds et la chimie. Alors qu'auparavant, jusque dans les années 50-60, l'agriculture s'était adaptée des variétés et des races au terroir existant. L'agriculture, ça a toujours été ça. Donc il faut en revenir à ça, donc se débarrasser de cette couche de chimie et de pétrole qui, de toute façon, sera de plus en plus chère pour les agriculteurs. Donc il y a au moins un effet du coût qui est là, très pédagogique et très motivant. Donc pour en revenir à une agriculture proche du sol et qui sera aussi forcément plus proche des gens parce qu'elle utilisera plus de main-d'œuvre, je vous donne juste un exemple. Les labours, on détruit les labours profonds, on détruit la fertilité de 30 à 40% des sols. C'est énorme. Donc fertilité qu'on compense par des engrais chimiques. Bon, il faudra donc labourer moins profond. Labourer moins profond, ça veut dire que la terre sera plus facilement attaquée par des mauvaises herbes. Donc pendant les premiers temps de ce retour à la terre, il faudra encore utiliser un peu de pesticides, mais désherber à la main. Le temps que la terre retrouve ses fonctions naturelles, de résistance naturelle aux parasites, aux mauvaises herbes. Et puis, parce qu'on utilisera moins d'engrais, moins de pesticides, moins d'engrais surtout, eh ben il faudra en revenir aux jachères, en revenir aux légumineuses, la culture des légumineuses, le trèfle, le pois, le lotier, etc., à la fois pour nourrir les hommes, pour nourrir les vaches, mais surtout parce que ces plantes savent capter l'azote de l'air et transmettre cet azote ensuite, une fois qu'on les a coupées, au sol. Mais pour ça, il faut cultiver, il faut faucher, il faut avec moins de matériel utilisant moins de pétrole.
Alors justement, dans les bonnes nouvelles, c'est qu'autour de 2030, les agrocarburants de seconde génération, donc pas ceux évidemment qui affament le reste de la Terre, seront matures.
A priori, seront matures. Deuxième voire troisième génération. Deuxième génération, c'est quoi? C'est utiliser toute la plante.
L'intégralité de la plante.
L'intégralité de la plante. Pourquoi? Parce que dans toute plante, il y a de la cellulose. Et la cellulose, ça fait du sucre. Et le sucre, ça fait des éthanols. Et l'éthanol, c'est bien pour faire avancer au moins les tracteurs.
Seulement, il faut les bonnes molécules pour décomposer tout ça.
Ça, on les a pas encore. On veut copier les ruminants ou les termites qui savent le faire. Oui. Mais bon, on a encore du mal. Donc, il y aura de toute façon une surface agricole qui sera consacrée à ça. Au moins pour l'alimentation des engins des agriculteurs. Et voilà, ça c'est la biomasse. Et puis il y aura aussi une surface qui sera peut-être demandée aux agriculteurs, s'ils l'acceptent, pour faire du solaire par exemple, des fermes solaires pour le village, où on consomme tout de suite. Et éventuellement on revend aux voisins, au village d'à côté ou à l'hypermarché d'à côté le surplus. Voilà, mais pas revendre à EDF qui va aller exporter ça en Bulgarie. Pour ensuite racheter de l'électricité fabriquée en Bulgarie par des centrales thermiques.
Voilà, c'est des mots.
Le système est stupide. Bon, oui. Bref. Donc l'agriculture, c'est ça. Et au final, l'agriculture, d'après les études, c'est 1 à 2 millions d'emplois en plus.
Donc ça va être énorme, là aussi.
C'est énorme. Ouais. Si tant est que les gens qui, à l'heure actuelle, méprisent les emplois manuels, ça c'est le merveilleux objectif atteint par cet autre objectif des 80% bas, qu'on n'a fait que valoriser les études générales. On a méprisé les études manuelles et on méprise le retour à la campagne. Donc si tant est que les gens, les jeunes, à l'heure actuelle, ne regardent pas d'un air condescendant la terre, le travail de la terre, sous prétexte que ce serait fatigant, il y aura de l'emploi. Mais il me semble quand même que travailler à arracher quelques mauvaises herbes, à regarder, essayer de trouver quel insecte va permettre de contrecarrer le développement d'un parasite, ça me paraît plus valorisant que d'avoir les fesses rivées sur une chaise derrière une caisse dans un hypermarché ou d'être employé dans un centre d'appel.
Non mais ça touche à beaucoup de choses.
Ça remet tout en cause. Moi je trouve ça formidable, mais c'est maintenant qu'il faut prendre les décisions parce que le seul frein, finalement, c'est un frein culturel. Quel rapport veut-on avoir avec la nature, avec le reste du monde, avec, en l'occurrence, les métiers manuels? Quel rapport on veut avoir avec les autres? l'agriculture, le changement du territoire ne pourront s'adapter que s'ils se relocalisent, que si on raccourcit physiquement les distances sans avoir besoin de les raccourcir artificiellement par l'utilisation du pétrole. Voilà, donc c'est un... En fait, c'est finalement la carte de France des années 60, en plus moderne, avec toujours des MP3 et des écrans plats, mais voilà, au niveau de la gestion de l'espace et des liens sociaux, on va plus vers ça, c'est-à-dire une France plus sobre et une France plus, je peux employer le mot solidaire qui est, comment dirais-je, un peu un gros mot maintenant, mais une France interdépendante avec oui. du lien social beaucoup plus
On va dire de coopération en tout cas.
Voilà, c'est tout simplement ça.
Merci beaucoup Frédéric, à bientôt.
Merci Denis, à bientôt.
Et le bientôt, ce sera donc la semaine prochaine avec Frédéric Danhé. Cette fois-ci, on parlera toujours à partir de Quelle France viticole, Quelle France en 2030, on parlera de la viticulture. Voilà, on se projettera en 2030. Merci à Michel Thomas, Loïc Frapsos, à Sophie Le Doré, à Jean-Christophe Pinaza et Xavier Pestugia qui réalisait cette émission.